Tumme barde lama dambe zavde dardu mame bala zavde zinde lume. Cevane zara damce dandu lume brede lume. Barde durce zavar gence dada mangar mamba cingur gence cümle sisi bacırıcı damlanır. Tene günce zebo, vandırıcı zombi zincamlarla, nandırıcı zekübe düd, darmi düdü zomarlı. Valla zulta, ruva namgın tata nyambi, simcin tamci zi tuğundu, zubi sanci zi kompan, rubarsa. Teyi che do tambe chu la tu san gong sung chi chun par sa wu nyam pe Samba san ju ju du to che pa man du tan de sa
D'abord, il faut développer l'esprit divin, la bodhicitta, c'est-à-dire le souhait très profond de vouloir atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont aussi illimités que l'espace. Et pour y parvenir, nous allons nous consacrer à l'écoute, à la réflexion et à la méditation dharma.
Tene tambe chula tupa tan samba gomba sung kapsu te sanju jod semti bate kira karche bore.
Et la chose la plus importante quand nous recevons, c'est-à-dire quand nous écoutons le Dharma, quand nous réfléchissons sur son sens et quand nous méditons, c'est d'avoir la bodhicitta, cet esprit de
l'éveil.
Et cet esprit de l'éveil, la bodhicitta, c'est la chose la plus importante au départ de notre pratique, parce que tout ce que nous faisons en ayant développé cette bodhicitta devient la cause fondamentale pour obtenir l'état de Bouddha, l'état de veille. Par contre, tout ce que nous faisons sans cette motivation, sans cette bodhicitta, ne peut pas amener à l'éveil. Et en particulier, dit Rinpoche, quand nous recevons des enseignements, quand nous écoutons les enseignements du Dharma, et même dans le cas où nous n'arrivons pas vraiment à suivre ou à comprendre le sens de l'enseignement que nous recevons, si par ailleurs il y a en nous la bodhicitta, cet esprit qui est tourné vers l'éveil, à ce moment-là, nous accumulons quand même un très grand mérite.
Tene pena lange kapso tepa chimbe lo le yimpin drogo re yimpin droba te yang te sanjok jisem nara lepa am tukuba re.
Et quand nous suivons le Mahayana, le grand véhicule, le but essentiel, c'est de parvenir aux bienfaits des autres, à pratiquer tout ce qui est bon pour les autres. Et pour réaliser cela, il est absolument essentiel de développer en soi la bodhicitta.
Et
Quand donc nous suivons le chemin du Mahayana ou le chemin des Bodhisattvas, quand même nous aurons envie ou le désir d'accomplir le bien des autres, nous n'y pourrons pas parvenir s'il n'y a pas en nous le développement de la bodhicitta. Et même quand nous aurons atteint le plein éveil, l'état de Bouddha, il nous faudra continuer une activité ininterrompue pour le bien de tous les êtres. Et cela est basé aussi, cette activité a aussi comme cause le développement de la bodhicitta. Et si nous voulons savoir sur quoi est basée cette bodhicitta, elle est basée sur le développement de la bodhicitta, dépend tout à fait du développement de l'amour et de la compassion.
Et
pour ce qui concerne aussi l'amour et la compassion, qui sont donc la cause de la bodhicitta, ce ne sont pas non plus des états d'esprit qui se forment par elles-mêmes d'une façon toute naturelle, mais il faut faire aussi des efforts pour les développer. Donc il faut savoir comment il faut développer l'amour et la compassion, et pour cela il existe des nombreux moyens, des nombreuses méthodes qui sont enseignées dans tout le long du chemin du Mahayana, et il faut les connaître. Rinpoche dit, bien que nous connaissons déjà tous les moyens par lesquels on développe et on pratique l'amour et la compassion, comme c'est un sujet extrêmement important, cela est la raison pour laquelle il le répète encore une fois ce soir. Donc le moyen pour développer l'amour, la compassion et par la suite la bodhicitta, c'est de considérer tous les êtres sans aucune exception comme ayant été notre père ou notre mère, ou notre ami ou amie, des personnes qu'on a chéries. Et par ce moyen-là, nous arrivons à développer cet amour. Et donc, si on utilise de tels moyens, on pourra commencer à développer l'amour et la compassion. D'abord, on les fera apparaître en nous, et plus par la suite, on les développera de plus en plus. La raison pour laquelle il nous est possible à nous tous de développer cet amour, cette compassion, c'est qu'il existe déjà en nous la cause de cet amour, de cette compassion. On porte en nous déjà la graine qui permet de développer cet amour, cette compassion.
Tene semjin nang la tseva tang samba de nyin ji samu ye bi jin tse de kan de ye de se na semjin me ba tun ru na nam la yang te rang ge pa la samba de tseva de ji ge ye re te de la ta na tene sem la tseva samu ye ba ta ye re.
Et nous pouvons comprendre comment il y a en nous tous déjà cette cause de l'amour, en observant comment même dans les êtres inférieurs, comme par exemple les animaux, il existe déjà cette graine de l'amour vis-à-vis de leurs enfants. Nous pouvons donc observer que même des animaux extrêmement sauvages qui vivent, qui se nourrissent d'autres animaux comme des tigres ou des léopards, ils ont de l'amour pour leur petit. Donc c'est bien une preuve que même en eux il y a la graine de l'amour.
Allez. Tien rabu sem te tseb saunji samba de ninji saunji yinbe tene jumse mambo de san tango.
Donc ainsi nous a été montré un exemple très fondamental pour comme quoi il y a le sentiment de ou la cause de l'amour en nous et en tous les êtres, et nous pouvons nous-mêmes examiner et voir pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est comme ça.
Tene semte seva savonji ba tisena samba dan seva te semje rangi ji churi to yere te hindu samba dan ni ji te tene kipa tama ze kon kompa de se me ban pe to.
Donc, en observant ainsi qu'il y a en nous cet amour et cette compassion, la graine de ces sentiments, et cet amour et cette compassion constituent donc des qualités de notre propre esprit, et pour cette raison-là, il nous est possible de les développer de plus en plus. On peut donc dire que l'amour et etc., tous les autres sentiments positifs peuvent être développés parce que justement l'esprit est doté de la graine de ces sentiments. Et un très grand maître de la logique, Dharmakirti, a prouvé avec en se servant de plusieurs raisonnements comment notre esprit est pourvu de la graine de l'amour et de la compassion. Et donc, puisque c'est comme ça, nous pouvons développer l'amour et la compassion jusqu'à l'infini, les rendre tout à fait
parfaits.
Et quand donc ce grand maître Dharmakirti a présenté son raisonnement comme quoi on peut développer l'amour et la compassion jusqu'à l'infini, et il a eu de nombreux philosophes de son époque qui se sont opposés à cette vue et qui ont prétendu que comment serait-ce possible de développer l'amour et la compassion à l'infini, puisque la conscience qui porte la graine de cet amour et de cette compassion et n'est pas quelque chose d'ininterrompu, mais elle est rompue de vie en vie. Et donc, comment c'est possible de développer cet amour et cette compassion continuellement?
Tētār jēpē tēnē lāṃsāṃ tēsō sāmbā tē nīngi sō tsē mē pārāṃ pārvār drupā lā tēnē jēvā ngāpsā drupā ngāyā drupā chōngu yārās.
Donc, pour répondre à toute cette critique d'Amakirti qui mettait en doute que l'amour et la compassion pouvaient être développés jusqu'à l'infini, Dharmakirti a été d'abord obligé de prouver que la conscience d'un être qui existe dans cette vie vient, est une continuité de la conscience de cet être dans une vie précédente et elle se poursuit dans une vie suivante. Donc il a dû prouver l'existence des vies
antérieures. Rang sem ji jo te la, sem ji jo am, sem ji nye lin ji jo ngoma te la, sem sarik zang re ma to, xia tang, cha tang, nyong ye so le, jie ma to pe rik pe dung yu re, so wo te, di dung yu re.
Et la raison principale ou sur laquelle est basé l'enseignement comme quoi à cette vie, il y a eu une vie précédente, et ainsi de suite, Et cet esprit est originé d'un autre esprit qu'on avait dans une vie précédente, c'est que l'esprit lui-même ou les états mentaux ne peuvent pas surgir de quelque chose qui n'est pas esprit ou de quelque chose qui n'est pas mental. Et comme le corps ne peut pas non plus surgir de l'esprit. Donc il est naturel que l'esprit lui-même surgit d'un esprit précédent ou un état mental surgit d'un esprit d'un état mental précédent et par là on peut donc
tene cheva nga se me par nzim betum ta ti lo sol te la me la tan da tsur nzi pa ba se
ve et tous les philosophes ou tous ceux qui ont soutenu la vue qu'il n'existe que cette vie là et non pas de vie précédente etc. Et ça s'appelait des Tsurul Dzepapa, qui veut dire ceux qui jouissent seulement de cette vie, donc qui ne croient pas qu'il y a des vies antérieures ou futures, et qui pour cela pensent que cette vie seulement, on doit en jouir autant que possible. Donc les gens qui ont cette vue sont nommés de cette façon parce que ils pensent que comme il n'y a que cette vie, qu'il n'y a pas de vie antérieure et non plus il n'y aura pas de vie future, il faut donc profiter, il faut jouir autant que possible de cette vie. Et donc, ceux qui appartiennent à cette vue philosophique pensent donc que le bonheur et la souffrance qu'on obtient dans cette vie ne sont pas causés par le karma, par les actions des vies précédentes, puisqu'ils ne croient pas à des vies précédentes, et que le bonheur et la souffrance viennent uniquement de nos propres efforts ou de nos propres actions dans cette vie même.
Ona cheva nga se meba ina tene semchen je cheva che gwe jumchen ro de karres na tene ran yin ji song re se gre se
et donc ces personnes qui ne croient pas que cette vie même a été causée ou est la suite d'une vie précédente. Comment voit-il donc cette vie? Il la voit comme quelque chose qui surgit de lui-même, tout naturellement, sans aucune cause.
Donc,
So they get involved.
Vit comme des phénomènes naturels de la même façon qu'ils disent que l'eau l'eau qui coule coule nécessairement toujours vers le bas et le feu qui brûle brûle toujours est toujours tourné vers le haut même si on le tourne à l'envers la flamme ira toujours vers le haut donc ce sont des phénomènes naturels de cette même façon ils conçoivent de la vie.
Dona ten rao ta ne ju ji de dong de ne ju de le le song wa ma yin ba tang se ba bu kun chok ke se ba ma yin be ko rang ke te ne jum si mang bu sang tang ge.
Donc ceux qui suivent cette plus philosophique disent que la vie n'est pas la vie des êtres et le monde extérieur ne sont pas des créations des actions passées du karma ni des créations d'une certaine puissance telle qu'un dieu, mais ce sont des phénomènes qui apparaissent tout naturellement comme ça.
Et
la raison pour laquelle ils conçoivent les choses de cette façon, ils ne peuvent pas voir une autre cause pour l'existence de la vie, etc., c'est qu'ils conçoivent comme réel ou seulement tout ce qu'ils peuvent percevoir par les sens. Ils ne peuvent pas tenir compte de quoi que ce soit qui ne soit pas perçu par les sens de n'importe quel phénomène caché ou mystérieux. Et quand on demande à ces gens qui se tiennent donc cette vue, pourquoi, puisqu'ils ne croient ni en une loi de karma, ni en un dieu, ils écrivent quand même des textes pour exposer leur vue. La réponse est qu'ils écrivent des textes pour épargner de la souffrance tous ceux qui, en croyant à une vue religieuse, se mettent à pratiquer une voie et de cette façon-là, ils endurent pas mal de difficultés de la pratique ascétique qui suit.
Alors, ces
êtres qui n'ont eux-mêmes aucune croyance religieuse, néanmoins, ils font un effort en écrivant ces textes. Il faut un effort en vue d'épargner les autres de la souffrance, comme ils le croient, en exposant leurs vues qui sont naturellement fausses, mais leur but est d'aider les autres. Donc même ces gens-là ont le but de faire le bien des autres. Et donc ça prouve encore une fois que l'amour et la compassion constituent la nature fondamentale de notre esprit. Il y a une autre école, une autre ancienne école philosophique qui disait donc qui expliquait l'existence de l'esprit ou des états mentaux d'une certaine façon, c'est-à-dire il disait que le premier esprit ou le premier état mental était né grâce à la conjonction de l'ovule de la mère et du sperme du père, et qu'à partir de ce premier esprit, le second est né, et ensuite suite. Alors que la vue de ceux qui acceptent les vies antérieures, qui acceptent donc les vies antérieures, ces vies et les vues futures, donc ils disent que le premier esprit de cette vie est le résultat de, ou est la suite de l'esprit de, du bardo, c'est-à-dire de l'état intermédiaire de, entre une vie et une autre. Et selon la vue du bouddhisme qui donc suit cette croyance en plusieurs vies, en vie précédente et vie future, le fait que chez les enfants d'une même famille, on rencontre des sentiments très différents. Il y a des enfants qui ont un grand développement d'amour et de compassion, d'autres qui en ont beaucoup moins. Et ça, c'est encore c'est considéré comme encore une preuve comme quoi l'esprit de cette vie ou les états mentaux de cette vie sont la suite, constituent une une continuité avec les états d'esprit de notre vie. Si quelqu'un veut vraiment connaître tous les raisonnements qui existent et qui expliquent d'une façon très détaillée pourquoi pourquoi il y a des vies antérieures, pourquoi cette vie est la suite des actions commises dans des vies antérieures. Alors il faut étudier les textes écrits par les grands logiciens, les grands philosophes du bouddhisme, où ce sujet est traité très en détail. Donc, en bref, dit Rinpoche, il faut comprendre que puisque notre esprit a comme qualité naturelle la graine de ou l'état de la compassion, de l'amour et de la sagesse, ces états-là peuvent donc être tout à fait et parfaitement développés par la pratique. Celui que l'on nomme le Bouddha, celui qu'on dit être tout à fait éveillé, c'est l'être qui a justement développé parfaitement et complètement ses qualités d'amour et de sagesse. Donc, ceci fut une introduction très courte, une explication très courte au sujet, au fait que l'amour, la compassion et la sagesse sont les causes principales pour obtenir l'état de Bouddha et comment tous les êtres sont pourvus de ces causes-là.
Tu
Et puis Rinpoche dit que d'une façon générale, il est très difficile de développer une foi véritable en le Dharma, une foi authentique. Mais si on y parvient, à ce moment-là, il n'est plus difficile de pratiquer le Dharma. Parce que même la pratique, même si on pratique seulement l'amour et la compassion, cela est suffisant si on a vraiment développé une très grande foi. Donc, Rinpoche nous demande de faire maintenant une courte méditation sur l'amour et la compassion. La méditation sur l'amour et la compassion, c'est une méditation qui a comme objet tous les êtres sans exception et qui aspire ou qui a le souhait de voir tous ces êtres complètement heureux et doués avec la cause du bonheur.
Sanjo Zemjo